On en était là, vous vous rappelez, c'est sous une question propre à Foucault. Que signifie cet apparent retour au grec que représentent les derniers livres de Foucault ? On en était à passer par une question plus générale d'abord, qui était, eh ben oui, comment Foucault s'insère-t-il dans une ou des traditions qui posent la question pourquoi les Grecs, c'est-à-dire pourquoi la philosophie est-elle née en Grèce et a-t-elle avec la Grèce un rapport énonçable? Énonçable comment? Est-ce que cette question est bien posée? J'en sais rien. J'en sais rien. Est-ce qu'il faut la poser comme ça? Est-ce qu'il convient de dire que oui, les Grecs ont eu avec la philosophie un rapport fondateur? Je ne sais pas, moi. Mais nous l'acceptons comme ça. Nous l'acceptons comme ça puisque notre sujet passe par là, puisqu'il s'agit pour nous de la pensée de Foucault. Or, ce que je voulais dire la dernière fois, très vite, c'est que la question m'a paru naître avec le romantisme allemand. Mais que, à partir du 19e siècle, cette question, pourquoi la philosophie, les Grecs, a reçu trois ordres de réponses assez différentes, et pourtant liées, complémentaires, beaucoup plus complémentaires que contradictoires. L'une porte sur, l'une est philosophique, et porte sur la révélation de l'être. Je m'exprime là en termes très généraux, très vagues, et forcément très vagues puisqu'elles couvrent des auteurs eux-mêmes très différents. Et je dis, il me semble que dans la philosophie allemande, de Hegel à Heidegger, la réponse qui nous est donnée concernant ce problème, c'est que oui, l'être s'est révélé en Grèce. Moi, ce qui me trouble, c'est le petit côté, enfin, c'est pas un inconvénient, c'est le petit côté chrétien de cette d'une pareille réponse. Je veux dire, on nous dit l'être s'est révélé en Grèce, un peu comme dans d'autres cas, on nous dit que le Dieu s'est fait homme à tel endroit. L'unité de la singularité et de l'universel. Bon. Pour ça que je dis peut-être qu'après tout, le problème n'est pas bien posé, mais enfin, encore une fois, ce n'est pas notre affaire. Oui, l'être s'est révélé en Grèce. Bon, on l'a vu très vite. Et ça revient à dire quoi? Ben, si je reprends le schéma de Hegel, très vite, l'être se révèle en Grèce. Sous quelle forme? Eh bien, il se révèle immédiatement. La révélation immédiate de l'être se fait en Grèce. Sous quelle forme? L'être y apparaît alors comme à la lettre l'universel des objets. Et c'est le début d'une longue histoire qui ne fait qu'un avec l'histoire tout court, c'est-à-dire l'histoire de la philosophie. Car va se produire ensuite une médiation ou une, là le mot m'importe, déjà une subjectivation. Le deuxième temps, ce sera une subjectivation de l'être, ou si vous préférez, déjà, marquons les notions qui nous importent, l'être se replie sur le sujet qui se représente l'objet et se représente lui-même. C'est le second moment, non plus de l'immédiate, mais le moment de la réflexion, marqué non plus par les Grecs, mais par Descartes. Je pense, donc je suis. L'être se replie sur le sujet qui se représente soi-même et qui se représente l'objet. et puis en un troisième temps, qui est le moment de l'absolu. Inutile de vous dire à quel point je schématise, mais les trois temps sont bien très nettement distingués par Hegel dans son cours sur l'histoire de la philosophie. C'est cette fois-ci le mouvement de la subjectivité du sujet. Le mouvement de la subjectivité qui se déploie dans l'être. C'est-à-dire qui pense l'être en se pensant lui-même. Et c'est le moment proprement hegelien par lequel Hegel estime achever la philosophie. Or, comprenons-nous bien, je dis bien, mais là j'ai pas le temps, et puis ce serait vraiment pas mon sujet. J'entends bien que Heidegger est très différent de Hegel. Je dis, la conception heideggerienne du rapport de la philosophie avec les Grecs n'en pousse pas moins sur ce sol-là, à savoir la Grèce comme lieu de la révélation de l'être. La grande différence entre Heidegger et Hegel, ce sera la manière dont les deux auteurs conçoivent la révélation de l'être. Mais qu'il y ait révélation de l'être en Grèce et esquisse d'un mouvement de la subjectivation comme le pli de l'être, c'est un thème signé Heidegger, autant que d'une certaine manière déjà signé Hegel. Donc, si je dis ce premier courant philosophique quant à la question du rapport de la philosophie avec la Grèce, pourrait-ce dire, oui, en Grèce se fait la révélation de l'être. Et c'est cela qu'on appelle philosophie. Et puis, il y a une seconde réponse, un second type de réponse, qu'on appellera non plus réponse philosophique, qui est beaucoup plus une réponse historienne. Et je voudrais à la fois que vous sentiez qu'il est injuste, que... Il y a quelque chose d'injuste, c'est à quel point les historiens, je disais, négligent la réponse philosophique comme si elle n'avait rien à leur apporter, alors qu'à mon avis, leur recherche n'aurait pas existé sans la manière de questionner d'abord philosophique. Car qu'est-ce que nous disent les historiens ? Il ne s'agit plus de dire, oui, l'être se révèle en Grèce. Pour eux, c'est inintelligible. C'est de la pure et simple métaphysique. En revanche, pour parler positivement, ils diront que en Grèce, se fait une organisation de l'espace cosmologique et social qui implique un nouveau mode de pensée que les Grecs appelleront philosophie. Donc la réponse n'est plus en Grèce l'être se révèle. Mais la réponse est, en Grèce, apparaît, ou s'organise un nouvel espace cosmique et social. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je vais très vite. Et je vous dis, là, c'est un peu comme tout à l'heure pour Hegel, Heidegger. Moi, je crois que les premiers grands historiens de la Grèce, du 19e siècle allemand, insisteront sur cet aspect du nouvel espace. Vous sentez tout de suite, c'est l'espace de la cité. Et on pourrait suivre les traces depuis l'histoire antique du 19e siècle jusqu'à l'école française actuelle où je citais trois noms particulièrement importants comme ayant été dans cette direction, à savoir Vernon, Étienne et Vidal-Naquet, qui ont analysé ce nouvel espace cosmique et social qui rend possible un nouveau mode de pensée nommé philosophie. Or, qu'est-ce qu'il y avait avant ? Avant, il y avait une pensée, voilà, je résume très très vite, hein, pour ceux que ça intéresse, vous irez voir les textes, c'est ça. Mettons que s'agissait d'une pensée dite souvent magico-religieuse. Pensée magico-religieuse qui répondait à quoi ? Qui répondait à, mettons, de grandes formations impériales, même en Grèce, Mycène. Mycène impériale. Ces grandes formations impériales sur lesquelles nos renseignements sont quand même, relativement consistants. Enfin, vous verrez tout ça. Or, par exemple, demande Vernant, comment se définit ce type de pensée, donc, disons, pré-philosophique, ce type de pensée magico-religieuse. D'autres disent poétique, qui s'exprime dans la poésie. Elle s'exprime par l'affirmation d'un écart. Affirmation d'un écart entre quoi et quoi ? D'un écart entre deux sens du mot premier. Ce qui est premier du point de vue du commencement, ou du point de vue temporel, et ce qui est premier du point de vue de la souveraineté. Du point de vue du pouvoir. Ça veut dire quelque chose de tout simple, comprenez. Ce qui est premier du point de vue temporel, c'est le chaos. Au début, il y a le chaos. Et ce qui est premier du point de vue de la souveraineté, c'est le Dieu souverain. C'est Zeus. Et qu'est-ce que c'est que la pensée magico-religieuse ? Elle suit tout ce qui est censé se passer dans l'écart. Il a fallu du temps pour dompter le chaos. Pourquoi ? La parole poétique ou mantique, mantique au sens de, ou divinatoire, si vous préférez, va retracer toutes les luttes entre générations de dieux. Entre les deux extrêmes, du chaos et du Dieu souverain, tout ce qui s'est passé, les titans, la lutte des titans, comment les titans ont été vaincus, etc., etc. Comment les générations de dieux se sont succédées, jusqu'à ce que le plus grand s'impose. Et impose l'ordre au chaos, en même temps qu'il triomphe des autres dieux. Bon. Si bien que le monde, sous la parole poétique ou pré-philosophique, se présentera comme une hiérarchie de puissance, en lutte les unes contre les autres, et qui viennent combler la distance entre le chaos et l'ordre souverain. C'est dire, moi, ça m'importe beaucoup parce que, dis juste, que lorsque traîne un peu partout, quand cela arrive, une idée comme, ah oui, la pensée archaïque, c'est celle de l'éternel retour, c'est complètement faux. L'idée que les choses reviennent, etc., c'est tellement faux. Encore une fois, pensez à ce que vous risquez déjà de savoir vous-même. Mais la pensée archaïque, à ma connaissance, elle n'a jamais invoqué un éternel retour quelconque. Elle a invoqué exactement le contraire. C'est-à-dire cette succession de générations divines. Jusqu'à ce qu'un Dieu souverain prenne le pouvoir. C'est-à-dire, elle a toujours invoqué la pensée archaïque, la succession des générations. Et un des derniers exemples grecs d'une telle pensée, c'est Hésiode. Et cette pensée, qu'est-ce qu'elle se propose? Elle se propose deux choses. Chanter la souveraineté, et comment la souveraineté s'est établie. Et dès lors, rappeler les grands exploits guerriers. Et ce sont les deux fonctions fondamentales de la poésie archaïque. Or, qu'est-ce qui se passe en grec, en Grèce? Qu'est-ce que ça veut dire, la philosophie naît? Ça veut dire d'abord que, et c'est là que vous reconnaissez un philosophe, le premier philosophe grec, seulement ils sont déjà arrivés plusieurs en même temps, forcément. Vous reconnaissez un philosophe grec à ceci. Quelqu'un qui vous dit non. L'univers a une loi d'organisation immanente. D'une certaine manière, c'est la même chose qui est premier dans l'ordre du temps et premier dans l'ordre de la souveraineté. Et c'est en même temps. Même si ça met du temps à se dégager, ça se peut, là, toutes les conciliations, bien sûr, la pensée pré-philosophique continuera dans la pensée philosophique. On peut concevoir qu'une loi d'organisation immanente de l'univers mette du temps à se dégager. Ça n'empêche pas que ce qui sera affirmé, c'est non pas un chaos, mais une loi d'organisation immanente à l'univers. Ou si vous préférez, une position de la Terre en équilibre au centre d'un espace déjà homogène. Position de la Terre en équilibre au centre d'un espace homogène. Ça, c'est la signature philosophique en quel sens? Parce qu'il n'y a plus besoin d'un Dieu souverain pour la faire tenir. La question « Pourquoi la Terre ne tombe-t-elle pas ?» a fini d'exister. C'était la question magico-religieuse. Pourquoi la Terre ne tombe-t-elle pas? Si elle est en équilibre au centre d'un espace homogène, elle n'a aucune raison de tomber. En d'autres termes, c'est une manière de dire qu'il y a une loi d'organisation immanente. Voyez ce qui s'affirmait comme écart. L'écart est complètement aplati, rabattu. C'est une certaine manière de ployer aussi, de rabattre, de replier. Je replie la loi souveraine sur la terre même. Et commence à ce moment-là la parole philosophique. Mais d'où ça venait une telle conception du cosmos? C'est que parallèlement se faisait une évolution. ou même une mutation de l'espace social. L'espace social cessait d'être pyramidal, avec le point de souveraineté, le sommet de souveraineté, et les étages représentant les générations de dieux qui se succèdent. Et là aussi se produisait une espèce d'aplatissement, de repliement sur soi. Qu'est-ce que c'était ? C'était un nouvel espace social défini par, suivant le mot grec, l'isonomie. Et qu'est-ce que c'était que la grande isonomie des Grecs ? C'était la position d'un espace homogène dont toutes les parties étaient d'une certaine manière symétriques par rapport à un centre. Le centre d'un cercle se substituait à cette toute autre image, sommet d'une pyramide. Sommet d'une pyramide dont les étages étaient les générations successives. Maintenant, il s'agissait au contraire du centre d'un cercle dont toutes les parties devenaient réversibles et symétriques par rapport au centre. Et qu'est-ce que c'était, ça, encore une fois ? C'était d'abord la grande constitution de Clisthène, qui, c'est bien connu, et ce que je dis, hein, encore une fois, est extrêmement rudimentaire, il faut, je suis forcé d'aller vite. Hein. Tout ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas faux, hein, mais... j'ai honte, c'est du niveau dictionnaire Larousse, quoi. C'est, comme on l'a toujours dit, substitué à la répartition dite gentilis, c'est-à-dire des tribus ou des gentes qui se définissent d'après leur ancienneté, l'image pyramidale des générations, substitué à cette répartition dite gentilis, une répartition territoriale. Les différentes parties territoriales, les différentes parties du territoire étant symétriques par rapport à un centre, lequel centre est quoi ? L'agora. La fameuse agora de la cité grecque. C'est-à-dire le foyer commun. L'idée du foyer commun qui se substitue au sommet de la pyramide. Et sans doute on dira que c'est la démocratie athénienne. Et on rappellera que Platon, philosophe par excellence, était violemment hostile à cette démocratie. Mais tout le monde comprend en même temps que ce n'est pas une objection. Car quel est le vrai problème politique chez Platon ? Ce n'est pas du tout revenir à la parole magico-religieuse, à la parole pré-philosophique ou à la pensée pré-philosophique, mais c'est demander sous quelles conditions, à quelles conditions l'isonomie, dont il reconnaît parfaitement l'exigence, puisque l'isonomie devient l'exemple même de la justice, la règle de symétrie de l'isonomie, on pourrait le traduire comme la règle de symétrie, d'égalité ou de proportion. La question platonicienne, c'est comment l'isonomie peut-elle être, c'est-à-dire l'idéal de Clisthène, peut-il être effectivement réalisé une fois dit qu'il ne l'est pas et ne peut pas l'être dans la démocratie athénienne. Pourquoi il ne peut pas l'être là, peu nous importe. Comment Platon ? Or, je dis juste, la réponse de Platon, ce sera que l'idéal de Clisthène ne peut être réalisé, ne peut être effectué, que si l'on réintroduit une sévère hiérarchie dans la cité, hiérarchie du type suivant, que les chefs, que les dirigeants de la cité n'aient pas d'autre profession, car c'est les différenciations professionnelles, les différenciations de métiers qui font que la démocratie athénienne ne peut pas réaliser l'idéal d'isonomie. Donc, il faut restaurer une hiérarchie, mais pas du tout pour revenir à la pensée magico-religieuse, simplement pour faire que les dirigeants soient soustraits à toute activité professionnelle autre que la politique même, c'est-à-dire soient entre eux les uns par rapport aux autres, dans des rapports d'isonomie. Ça n'empêche pas que certains éléments de Platon se serviront et réactiveront un type de pensée magico-religieux, d'où notamment l'utilisation du mythe chez Platon, mais dans un tout autre contexte et dans un tout autre but. Et si l'on cherche en effet, c'est-à-dire que Platon en fait garde tout à fait la conception de l'espace clisthénien, estime simplement que la démocratie athénienne est tout à fait insuffisante pour réaliser dans la cité cet espace isonomique. Bien plus que pour ça, il faut substituer à la symétrie des parties, il faut substituer des égalités de proportion, c'est-à-dire des rapports d'analogie. Donc les différences. Mais c'est pour vous dire qu'il appartient que Platon, même quand il a l'air de se désolidariser tout à fait et de rompre avec ce problème, appartient complètement là encore au terrain de ce problème. Et c'est très curieux, si l'on cherche une des origines, on voit donc qu'il y a une origine cosmique, une origine civique de cette nouvelle organisation ou conception de l'espace. De la même manière, je dirais, il y a une origine que Détienne a très bien analysée dans son livre Les Maîtres de Vérité, très très bien analysée, et qui serait les guerriers eux-mêmes. C'est que les guerriers, pour leur compte, ils font pas seulement la guerre. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, peut-être que cet espace, ce nouvel espace grec, est né chez les guerriers. Les guerriers, ils ont toujours eu un statut spécial. Et ce statut spécial consiste en quoi? Un type de parole qui n'appartient qu'à eux. Un mode de pensée.